On jase vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
Bon lundi tout le monde, bienvenue à ce retour de On jase. Après quelques semaines d'absence, c'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve en ce lundi 4 octobre 2021. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent. Salut mon Martin, comment ça va?
Ça va très bien, mais je vais te reprendre là. Quelques semaines d'absence, ça a été une éternité, c'était interminable. Et Yannick, ça fait longtemps que tu fais ça de la radio, de la télé, puis t'es à RDS, etc. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de gens écrire pour savoir quand est-ce une émission revient. Malheureusement, on est les derniers à revenir. Tout est revenu à RDS dans notre chambre, le 5 à 7. À la radio, les émissions sont là également. Puis on était vraiment les derniers qui n'étaient pas revenus. Même les plus grands, les plus petits podcasts sont revenus. Puis les gens écrivaient. Je n'ai jamais vu ça. Je veux vous dire un sincère merci. Yannick puis moi, là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que ça, de voir qu'on n'est pas là, puis les gens ne nous ont pas oubliés parce que vous auriez pu nous remplacer pendant ce temps-là par... Il y a tellement de choses qui sont offertes à vous, puis vous êtes là aujourd'hui, mais surtout, vous nous avez écrit, c'est incalculable, j'ai pas fini de répondre à tout le monde, puis merci. Si j'ai pas écrit le 4 octobre 844 fois, je l'ai pas écrit une fois. Alors, je veux juste vous dire un énorme merci.
Oui, je pense que les gens, tout comme nous, avaient hâte de se retrouver, qu'on se retrouve tout le monde ensemble, la communauté. Et l'émission qui est accessible, évidemment, sur RDS, RDS Info à la télé, sur le web également, sur le rds.ca et sur Facebook. Et Martin, je pense qu'il est de mise, dès le départ, de remercier et surtout de souhaiter la bienvenue à notre nouveau commanditaire, Ford du Canada, qui présente On jase comme ça et qui sont avec nous tout au long de la saison. Donc ça aussi, c'est une... fichu de bonnes nouvelles. On est bien content de voir l'appui de Ford avec nous.
Bien, je vais en rajouter là-dessus. C'est incroyable, tu sais, c'est un podcast. Puis je salue Luc Dansereau, tu sais, qui avait commencé à Bebel avec moi dans les débuts. C'était le rêve, hein? On était dans un garde-robe au début, puis on se cachait pour faire le show. Puis là, à cette heure... puis à cette heure, il y a un commanditaire, bien, un commanditaire important en Ford. Puis là, mettons, vous dire, oui, mais moi, j'ai pas de voiture, mais je vous écoute quand même. C'est pas grave, là. On remercie Ford Canada. Vous pouvez peut-être juste aller liker leur page sur Facebook. Juste ça, ça va faire un grand plaisir aux commanditaires. Puis si jamais vous vous doutez de l'importance que vous avez, c'est à cause de vous que le show est rendu commandité par Ford. Fait qu'un gros merci. Le côté, l'autre côté ouais, de ça, s'il y a des gens avant qui nous écoutaient sur YouTube, venez nous voir sur rds.ca, sur Facebook, il y a la télé maintenant. Il y a plein d'autres façons de nous écouter. YouTube, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir de la commandite. Eux veulent mettre leur pub à eux, puis c'est bien correct, là, on respecte ça. Sauf que c'était environ 10 000 personnes par jour qui écoutaient le show On jase. C'est beaucoup de monde, 10 000 personnes pour une quotidienne. Fait qu'on espère que vous allez pouvoir trouver votre compte avec Facebook ou avec rds.ca, mais dites-vous là, que ce n'était pas fait là, à l'encontre de vous. C'est la façon que c'est fait YouTube, ça ne prend pas les commandites.
Exact. Tu sais, Martin, la formule va être la même. On est avec vous comme ça à la télé, sur le web, partout en version podcast également, avec plein de collaborateurs. Donc, il n'y a pas vraiment de changement à la formule. Une formule gagnante, on ne la change pas, mais on aura plein de choses, des petites nouveautés ici et là au cours de la saison. Entre autres, Stéphane White qui se joint à l'équipe de collaborateurs de On jase. Il y a Yannick Gourde qui sera avec nous également de temps en temps. Les autres, les habitués, David Perron et tout ça, ça revient comme à l'habitude. On va avoir un nouveau feature. Je vais prendre le terme anglais. Avec Ford, là, le joueur électrisant. À chaque jour de match, on va cibler un joueur, Martin, ensemble, qu'on va surveiller le soir et le lendemain, on va en parler. Le grand pool Ford également et toute notre belle équipe de collaborateurs et surtout les gens qui vont encore une fois commenter et faire partie prenante, être une partie prenante de notre émission. Mais là, on va changer ça un petit peu aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui se concentre sur le Facebook, mais comme ma page Facebook ne fonctionne pas, c'est Martin qui va y aller sur le Facebook aujourd'hui. La tienne non
correction,
plus, c'est ça?
Mon chum. Non, ben moi, présentement, je suis capable d'aller sur Facebook, mais on m'informe qu'il y a une panne Facebook planétaire. C'est comme ça qu'on me l'a écrit.
C'est ça.
Fait que c'est pas nous, ça sera Facebook. Oui, exactement.
Ah, parfait. Ben, alors, écrivez-nous sur On jase, sur la page d'On jase, sur le rds.ca. On va lire vos commentaires. Aujourd'hui, Denis Gauthier sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. et Guy Boucher sera là également. Mais juste avant, Martin, juste une petite seconde. Je sais qu'on parle de hockey, là, mais puis t'es un maniaque de football, moi aussi, mais hier, t'as sûrement fait comme moi hier après-midi, que c'est donc génial que le baseball majeur pense organiser ça comme ça, tous les matchs à 15h le dernier dimanche. C'était fou hier, là. Red Sox, Yankees, Blue Jays, Mariners. On est déçus pour les Blue Jays, mais quelle fin de journée de baseball. As-tu regardé ça un peu?
Absolument. Voyons, poser la question, c'est d'y répondre. C'est plate. Tu sais, juste un match contre les Yankees, quand les Yankees sont venus jouer à Toronto, ça aurait pu faire la différence. Juste une des défaites pendant la saison contre les Orioles de Baltimore. Toronto, qui ont eu trois domiciles, Dunedin, Buffalo, puis Toronto, puis ils se ferment ça à la porte. Honnêtement, si on est capable de garder Robbie Ray et Marcus Semien, c'est correct, mais je ne pense pas qu'on va être capable de garder les deux du côté de Toronto. Et malheureusement, on ne reverra peut-être pas cette équipe qui était aussi géniale. Fait que ça, c'est pour le baseball. Petite parenthèse baseball, mais ça va tout être... Tu sais, les États-Unis, c'est ce qu'ils souhaitaient, là, un affrontement, un match suicide. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu t'en vas chez vous. Yankees, Red Sox, c'est ce qu'on va avoir demain. Ça va être sur nos zones, en plus, je ne me trompe pas.
RDS2 demain. RDS2 à compter de 20h, le match Yankees-Red Sox avec Alain Uzereau et Mark Griffin. Hey, je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver notre chum Guy qui est là, qui est prêt. On va lui souhaiter la bienvenue. Salut Guy, comment ça va?
Salut messieurs, ça va super bien. Je suis dans le bois, fait que je suis toujours... Fait que... première fois que je fais le show... Première fois que je fais le show de mon chalet avec Internet de Elon Musk, Starlink, écoute, débile mental. Mon Internet est meilleur dans le milieu du bois qu'il était à Ottawa dans ma maison. Fait que, regarde, c'est ça. J'ai enlevé la chemise puis le manteau de chasse, là, fait que, mais j'ai pensé que vous aimeriez me voir au naturel quand je suis vraiment heureux. Fait que c'est ça.
Ouais, un manteau de chasse avec un chalet Under Armour, ça doit être beau. Ça doit être beau.
C'est pour ça que je voulais juste donner un aperçu. Là. Je ne resterai pas Crocodile Tiggy le reste de l'émission.
Crocodile Tiggy. Hey, les gars, avant de commencer, je vais juste vous donner les trios à l'entraînement ce matin. Toffoli, Suzuki et Caulfield étaient de retour sur la glace. Drouin, Dvorak, Anderson, Armia, Evans, Gallagher. Donc, c'est les gens qui voulaient avoir Gallagher. Et Lekkonen, Perrault et Belzile formaient une quatrième ligne. Donc, pas une fois de l'entraînement jusqu'à maintenant, on a vu Perrault au centre. Et Badabing, il est là. Où est Payling? On va avoir des détails plus au courant de la journée. Vous voyez les défenseurs. Romanov, Petrie, Ben Sherrod, Chris Wyman. Wyman qui a bien fait en fin de semaine. Et Goulet, Kulak avec David Savard. Jake Allen, Montembeault. Montembeault était un des premiers à l'entraînement ce matin. Pas de signe de Carey Price. On nous avait dit que Carey Price sauterait sur la patinoire. On n'a pas vu de Carey Price. Donc, j'ai bien hâte d'avoir les nouvelles du coach quand il va s'adresser aux médias. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher Montembeault au balotage. Ça se pourrait, hein, mon Guy, parce qu'on veut se protéger les fesses d'avoir un gardien de but. Tu as connu ça, toi, perdre des premiers gardiens de but. Puis, je me souviens de l'année de Condon, là. Tu ne l'avais pas vu venir, celle-là, hein?
Non, il a joué, je ne me rappelle plus. C'était-tu 26 matchs en ligne qu'il avait joué, là, en tout cas? Fait que, ouais, c'est ça. Mais on avait réussi à faire des séries, puis se rendre loin. Puis ça va donner du temps à Anderson à gérer sa situation avec son épouse qui avait le cancer. Et si c'était pas de ça, ben regarde, on s'en serait pas sorti. Mais garde pas de gardien, t'es mort. Tu peux avoir le meilleur avantage numérique du monde, le meilleur désavantage numérique, la meilleure équipe à 5 contre 5, oublie ça. Pas de gardien de but, garde, t'es aussi bête de donner les clés, puis t'en es chez vous.
Puis pas seulement Price qui est pas là, tu sais, ça va nous amener sur ton premier sujet, Guy. Perdre un défenseur top 4, l'absence de Shea Weber, tu sais, veut pas, ça fait mal. Tu sais, comment on se sent là, quand on est entraîneur, puis que là, tu es Dominique Ducharme, tu sais, je sais pas si tu as connu pareille situation, mais là, tu perds Weber, puis tu perds Carey Price, tu sais, tu perds du leadership par le fait même également, tu sais, c'est tes leaders dans cette équipe-là. Faut que tu gères tout ça de manière différente. Là, au moins, ils ont un peu de temps pour le faire, tu sais, c'est moins pire que la saison dernière où ça commençait assez abruptement, là.
Oui, mais l'autre chose aussi, c'est tu les perds combien de temps? C'est toujours la question. Tu peux perdre certains individus de premier plan pendant une courte période de temps puis t'en tirer. Le problème, c'est à long terme. Tu peux pas t'en tirer. Oublie ça. À moins que tu aies réussi à aller chercher des joueurs de premier plan qui sont semblables, qui remplissent. Mais tu peux pas. Un gardien de but numéro un, tu vas t'en tirer un certain temps. Mais après ça, oublie ça. À moins que ton gardien, qui est comme Jake Allen, est capable d'une longue période de temps de tenir le fort, comme Condon avait fait pour nous pour un certain temps. Mais après ça, évidemment, t'es ton gardien, c'est ton joueur le numéro un. Après ça, pour moi, c'est clair, c'est ton top 4. Puis après ça, c'est tes centres. Alors, la minute que tu perds un de tes gars top 4, ben là, t'as juste un top 3, donc t'as quelqu'un qui est pas dans sa chaise. Il est capable un certain temps, mais il est pas capable sur une base régulière. Et puis évidemment, si t'as un blessé, si t'as un malade là-dedans dans ton top 4, ben il te reste un top 2. Fait que garde. La vérité, si tu me dis pas que c'est le Canadien, là, tu me parles d'une équipe en général, je serais honnête dans ma réponse, mais là, il faut que je fasse attention parce que là, les gens vont dire que tu sais, je suis pessimiste négatif. C'est pas ça. C'est que si tu perds ton gardien numéro un sur une longue période, puis tu perds ton capitaine, ton leader numéro un, puis c'est un top 2 qui joue les premières lignes, puis qui joue 25 minutes et plus, regarde, c'est mortel. Là. Mais Carey Price va revenir, donc ça sera pas un problème à long terme, selon moi. Jake Allen est capable de faire le boulot pendant une période de temps. Je pense que là où c'est le plus difficile, c'est Weber. Puis c'est là, tu sais, les gens qui l'aimaient pas, qui étaient très difficiles à son égard. Souvent, c'est pas quand le gars il joue que tu t'en aperçois, c'est quand il est plus là que tu t'aperçois de quel impact qu'il avait. Alors, tu peux pas remplacer un top 4 par un gars qui est 5e, 6e, 7e pendant une longue période de temps. Puis pour moi, je fais des conférences autant dans le sport que dans le corporatif, c'est toujours la même chose. Tout repose sur le leadership. Tout repose sur le leadership. Alors, c'est pas le Canadien, c'est tout le monde. Toutes les équipes de hockey, toutes les compagnies, tous les groupes de tous les genres, tout repose sur le leadership. Alors, on le voit avec Edmonton, ils ont repêché les meilleurs joueurs, les plus talentueux pendant 12 ans de temps, puis pas capable de s'en sortir. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait un manque de leadership. Les gens ne sont pas capables de s'élever tout seuls quand ils sont jeunes, puis en plus, ils sont pas capables de prendre la pression quand ça va mal. Parce que ces gars-là qui tirent la barque. T'sais, si tu regardes les séries l'année passée, c'est tout le temps les Corey Perry, puis les Weber, puis les Gallagher, puis ces gars-là, en première période, au début de match, les premiers 10 minutes, c'est eux autres qui géraient le match, c'est eux autres qui allaient chercher le but, c'est eux autres qui allaient chercher les grosses mises en échec, qui étaient capables de changer le momentum, de calmer le groupe. Alors, c'est plus ça pour moi qui va être un challenge pour le Canadien parce que tu as vraiment perdu des leaders de premier plan. Puis si Carey Price n'est pas dans le vestiaire, puis si Corey Perry n'est pas dans le vestiaire, puis Weber n'est pas dans le vestiaire, toutes ces ramifications-là que ces gens-là ont, ils sont plus là. Puis tu peux pas dire, je donne une lettre à un autre gars, puis toi, sois un leader. C'est pas mal que ça fonctionne. Il faut que les gens aient du vrai leadership. Et du vrai leadership, c'est de l'influence. Est-ce que tu as de l'influence et le courage de faire ce qu'il faut faire? C'est les deux choses qui reviennent pour moi. Alors, pour moi, si tu me demandes, avec le changement de personnalité du Canadien, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est l'impact du leadership, autant dans le vestiaire que sur la glace.
OK. La question que j'ai pour toi, Dominique Ducharme, c'est sûr, lui, il faut qu'il réponde. L'expérience de se rendre en finale, d'avoir côtoyé chez Weber, l'aura de chez Weber va rester dans l'environnement du Canadien. Ça, je le crois. Là, tu sais, les joueurs ont appris, ont grandi avec chez Weber. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, tu veux que tes jeunes joueurs apprennent de chez Weber au lieu de piquer Subban lors de la transaction. Fait que lui, c'est sûr qu'il faut qu'il dise que ça va rester puis que les gens ont appris tout ça. Je n'ai parlé avec Bob Hartley, il m'a dit, t'as beau assister à toutes tes cours, ça veut pas dire que tu vas passer l'examen du leadership. Fait que je pense que tu l'aimes, celle-là. Hein? Comment un Canadien, comme disait Dominique Ducharme, ne peut pas aller l'acheter au Walmart. Fait qu'on fait quoi? Ils vont... ça arrive, ça, l'année suivante que tu nous as cassé les pieds toute l'année avec les impondérables, le leadership, les intangibles. Le Canadien sera en finale de la Coupe Stanley. Puis l'année d'après, Perry, Weber, puis tout ça est parti. Fait que c'est-tu vrai qu'ils ont appris? Puis c'est-tu vrai qu'ils vont être des meilleurs leaders, les Gallagher, ceux qui restent?
Là? Ben, c'est parce qu'il faut comprendre une chose. Gallagher, il est déjà un leader exceptionnel. Tu ne peux pas lui demander d'être plus leader. Je vais donner un exemple. Je vais donner mon expérience à moi. À Tampa, on a une année, comme le Canadien, on surperforme. Personne ne s'attendait à ce qu'on fasse les séries. Bon, on se rend à un but de la finale de la Coupe Stanley. Là, évidemment, on était en reconstruction, mais on ne pouvait pas le dire. Fait que l'année d'après, il y a 7 joueurs, tu sais, les Gagné, les Bergenheim, tous ces gars-là qu'on n'a pas pu re-signer. Et dans ça, il y avait des gars qui avaient une forme de leadership, les Dominic Moore, ces gars-là qu'on est obligé de d'échanger. Mais quand tu regardais, mettons, la sociométrie, ce qui est le portrait de notre équipe, moi, j'étudie toujours ça, qui est quoi, les clics, l'impact sur qui, tout ça. Puis tu vois toutes les ramifications des joueurs. Et Martin Saint-Louis, le Cavalier, ces gars-là, c'était des... Puis dans ce temps-là, Stamkos et Edman, c'était des flows. Il n'y avait pas de leadership encore. Et tous ceux qui avaient du leadership, on savait l'impact qu'ils avaient, mais on savait surtout les ramifications qu'ils avaient sur certains individus. Puis dans quoi? Tu étais un leader social? Est-ce que tu étais un leader d'éthique de travail? Est-ce que tu étais un leader verbal? Écoute, il y a tellement de types de leadership. Et après ça, le problème, c'est qu'il faut que tu calcules toutes tes ramifications. Alors nous, le plus gros problème qu'on a eu, c'est que on n'avait pas vraiment un top 4, on n'avait même pas un top 2. Il y avait Lundin, qui était un septième défenseur, qui jouait sa première part de défenseur contre les meilleurs joueurs toute l'année et qui est redevenu ailleurs un septième défenseur, puis même dans les estrades. Mais on avait Olund, Mathias Olund, mais son genou était fini. Il a réussi à finir l'année. Mais ce qu'on le savait, mais on ne pouvait même pas savoir jusqu'à quel point, c'était son leadership. Toutes les ramifications, c'était le grand-papa de la gang, c'était même le gars que les gars comme Martin Saint-Louis puis le Cavalier allaient voir pour les questions de décision, pour les choses qu'il fallait faire par rapport à certains individus, par rapport à l'atmosphère, puis ainsi de suite. Alors lui, durant l'été, son genou c'était fini, sa carrière était finie. On s'en est jamais remis. Puis la raison est bien simple. Ouais, c'est parce que qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu aies à peu près un tiers de ton équipe qui est un leader. Pourquoi? Parce qu'il faut t'aille rejoindre toute ton équipe d'une façon ou d'une autre, avec tes ramifications, alors tes intangibles, ta colle. Alors, si t'enlèves Olund, puis que lui, il a des ramifications sur 9 individus dans l'équipe, ça veut dire qu'après, Martin Saint-Louis, à place d'en avoir sur 7 individus en particulier, puis le Cavalier sur 5, bien là, eux autres sont obligés d'aller chercher ça sur toutes les autres que Olund rejoignait. Comprenez-vous? Fait que là, c'est ça, là. Ça veut dire que quand tu es déjà au maximum de ton leadership, parce que Martin Saint-Louis ne pouvait pas être plus leader qu'il l'était, il est exceptionnel. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu es capable de prendre. Fait qu'à un moment donné, tu étouffes. C'est ça le problème. C'est que t'as pas, ton nom, premièrement, et ton type de leadership doit être très spécifié parce qu'il faut que tu comprennes dans quoi un gars est leader. Tu n'allais pas voir Martin Saint-Louis faire un party. Pourtant, c'était le leader. Tu allais voir Malone pour faire un party, puis sortir les gars, puis relaxer. Tu comprends-tu? C'est pour ça que ton leadership, il est très spécifique, il faut que tu le connaisses, il faut que tes missions que toi tu donnes comme leader à tes joueurs, il faut que ce soit la bonne mission, parce que je ne peux pas être déçu de Martin Saint-Louis s'il n'a pas pu rassembler les gars pour créer un bon party. Ce n'est pas son type de leadership.
Alors, c'est pas son rôle non plus, hein, c'est ça.
C'est pas son rôle non plus. Alors, quand tu perds des individus, c'est pas juste que tu vois ça à glace. Je le dis toujours aux gens. Corey Perry, vous le savez, je l'ai dit au début de l'année passée, on a discuté ensemble souvent. L'impact de ce gars-là, pourquoi je le savais? C'est pas parce que je savais qu'il était bon d'ailleurs, je l'avais eu au championnat du monde. J'ai vu l'impact que ce gars-là avait, c'était phénoménal. Alors, quand il est arrivé avec le Canadien, dans ma tête, c'est une question de temps qu'il allait justement avoir cet impact-là. Puis pour moi, s'il n'était pas là, le Canadien ne fait pas les séries, puis le Canadien ne passe pas en première ronde. Alors, qui va remplacer ça? Je ne suis pas dans la chambre, je ne les connais pas, les gars. Mais une chose est sûre, comme Bob Hartley a dit, tu ne peux pas décider qu'un gars il est prêt à ça. Tu ne peux pas décider qu'il a le courage et l'influence de faire ça, même si tu veux. Je veux dire, ça serait comme de demander à mon garçon à 19 ans, OK, Vincent, faut que tu acquières toutes les choses que tu vas acquérir dans 10 prochaines années, mais tu les acquiers là parce que je n'ai besoin et il faut absolument que tu les ailles. Ça ne fait pas de sens. C'est avec le temps, c'est avec les influences des autres, puis est-ce que tu es capable aussi? C'est pas parce que tu veux être un leader que tu... Je vous le dis. L'étude du leader, comment tu calcules le leader, c'est est-ce que tu as de l'influence? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont présidents, puis c'est pas eux autres les leaders. Les gars sont des capitaines. Regarde, on le voit très bien à Buffalo, là. Aiko, mais ça, les gens de l'intérieur, ils savaient très bien qu'Aiko, c'était pas cette forme de leadership-là. Fait que c'est pas parce que t'as un statut, c'est pas parce que t'es le gars qui a le titre que t'es un leader. Même des fois, t'es le cancer. T'es non seulement pas leader, t'es le cancer. Absolument. Alors, il faut savoir de l'intérieur.
Absolument, ouais. Exact.
Guy, il y a un élément, par exemple, qui est nouveau cette année, en tout cas, le Canadien n'a pas vécu ça depuis 1993. Là, on a de la perte de leadership. Par contre, on a réussi à faire un parcours assez exceptionnel l'an passé. Ils se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley, ils sont finalistes. Quels sont les bienfaits pour une équipe ou pour ce groupe-là d'avoir réussi à accomplir des grandes choses puis de transporter ça à cette saison? Je sais que de côté de médaille, il peut y avoir du bon, du moins bon là-dedans, mais quels sont les bienfaits d'avoir réussi à atteindre la finale?
Bien, les bienfaits, premièrement, c'est toujours positif. Premièrement, c'est une expérience, car on va le dire, là, c'est une expérience que tu vivras peut-être jamais dans ta vie. Là. C'est-à-dire, statistiquement, si tu te rends fini arrière comme joueur de hockey, tu es dans l'infime minorité. Là. Fait que, tu sais, déjà là, toi, tu as vécu quelque chose que très peu de gens vont avoir vécu. Alors, ça c'est, je pense qu'il faut réaliser ça. L'autre côté, c'est qu'évidemment, tu as appris ce que ça prend, tu as vu le caractère des individus, tu as vu la persévérance, tu as vu comment t'ajuster, tu as vu comment être capable de gérer les moments de pression. Alors, c'est clair que tu as appris énormément. Ceci étant dit, chaque année est différente. Et je le dis, là, c'est pas à cause du Canadien. Regarde, Martin, vous le savez, là, les dernières années, on en a parlé souvent, c'est à recommencer à zéro à chaque année. L'erreur qu'on fait, puis je regarde, je l'ai vu, je l'ai faite, j'ai fait partie des équipes en tant que joueur, en tant qu'assistant coach, en tant que coach, on pense toujours qu'on va reprendre où on était à la fin de l'année. Puis quand tu te rends loin des séries, bien là, tu dis « wow, on va reprendre où on était ». C'est complètement faux. Puis même que souvent, c'est ouais, ce qui te nuit.
Ça te nuit, ouais.
Ça. Ben oui, ça te nuit. Parce que tu as l'impression encore d'être là. Mais c'est parce que là, la fin, là, c'est la culmination d'un extrêmement long processus et difficile pour se rendre là où tout a été mis en place, où tu as travaillé fort, tu as réussi des choses, tu as appris. Puis en plus, il faut le dire, tu as été chanceux. Parce que comme Julien Brisebois le dit, on a été chanceux. Sinon, on n'aurait jamais gagné 2 ans, puis il n'aurait pas gagné l'année passée aussi. Ça prend tout. Tout fait qu'il fonctionne. Comment ça se fait que Dallas se rend en finale à la Coupe Stanley, puis l'année passée, ne fait même pas les séries?
C'est vrai.
C'est ça, là. Puis regarde, nous autres, on s'était rendu 2 fois en finale, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste que ce que tu apprends. Il y a tes circonstances. Le Canadien a une nouvelle équipe. Il y a des joueurs qui manquent, a perdu de leadership, est allé chercher d'autres types d'individus et se retrouve dans une division complètement différente. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas dire « Oh, on a appris l'année passée, ça va recommencer où on est ». Non, les circonstances sont différentes. Tu sais, l'humain, là, je le dis toujours, c'est comme un triangle, là. T'as le côté émotionnel, t'as le côté rationnel. Mais on oublie que c'est le côté circonstanciel. Les études en ce moment sont en train de... et dans le sport, qu'on met tellement de temps sur la psychologie des individus, puis leur background, leur passé, où ils en sont en ce moment émotionnellement, puis rationnellement, puis tout ça, alors que quand vient le temps, les circonstances ont encore plus d'impact que le passé des gens puis les valeurs des gens. Tu sais, ils faisaient des études dans les campus universitaires où certains types d'individus finissaient leur cours, avaient 25 minutes pour se rendre à l'autre cours, à l'autre bout du campus, puis entre les deux, ils mettaient des gens dans le besoin. Bien, les étudiants arrêtaient à tonnes pour aider. Mais après ça, la même étude, les mêmes individus, les mêmes valeurs, là, il y avait juste 5 minutes pour se rendre d'un bord à l'autre parce que le cours commençait, puis là, tout d'un coup, personne n'arrêtait. Mais pourtant, c'est les mêmes individus, les mêmes valeurs, mais c'est les circonstances qui ont changé. Alors, c'est pour ça que on ne met pas assez de temps sur l'étude des circonstances et on décide qu'il y a un résultat qui va être plus facile ou ça va être de même à cause qu'on a appris, à cause qu'on est nous-mêmes, à cause qu'on a progressé comme individu. Oui, mais les circonstances ont souvent beaucoup plus d'impact. Alors, le Canadien, cette année, c'est quoi ces circonstances? Nouvelle équipe, nouveaux joueurs, des gars blessés en partant, complètement un changement de leadership, beaucoup plus de responsabilités sur un Gallagher, beaucoup plus de responsabilités sur des individus. Ceux qui sont capables de gérer ce leadership-là. Et on se retrouve à jouer contre Toronto, Boston, Tampa, Floride et tout ça. Alors, c'est là que les véhicules, là, les attentes t'étouffent.
Je t'arrête, Guy. On va juste aller à la pause de 10 secondes. Mais comme d'habitude, ça se poursuit sur toutes nos plateformes, sauf la télévision. Guy, si tu veux finir, ton idée là, que tu avais commencée.
Bien, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de voir du négatif. C'est qu'il faut voir qu'est-ce qu'il en est avec le Canadien. Puis pour moi, la première des choses, il faut gérer les attentes. En partant, là, les attentes qu'on se retrouve en finale, que tout fonctionne, puis que ça soit
les mêmes joueurs. Sais-tu qu'est-ce qui ressemble à Dallas? Les blessures sont arrivées tout à l'heure, Séguin blessé, pas de gardien de but. On va commencer avec... le gardien de but substitue et on finit par ne pas faire les séries parce qu'on était tout le temps en attente des blessures, voir si elle allait revenir. Séguin a joué le dernier match de la saison, puis c'est tout. T'sais.
Absolument. Puis tu le sais, je le dis toujours, on a beau parler pendant une heure de temps, là, mais les blessures, là, ton leadership évidemment, là, mais les blessures et le gardien de but, ça décide 90 % de ce qui se passe dans la Ligue nationale et dans tous les sports. À moins que tu n'aies pas de gardien de but, évidemment. Là. Si tu joues au football, ben là, c'est sur ton corps arrière. T'sais, si ton corps arrière n'est pas bon, si ton corps arrière est faible, si ton corps arrière est blessé, ben regarde, tu t'en tires pas. Fait que tu sais, oui, on peut parler de leadership et de tout ça parce que tout repose là-dessus, c'est clair. Ça, c'est dans des conditions normales. Mais si tu n'as pas ton gardien numéro un pendant une longue période de temps, puis tu as des blessures à des joueurs clés pendant longtemps, regarde, ça fait assez long.
Ça marche plate. Pas.
C'est pas des excuses, là. C'est, les gens vont dire, ah, c'est des excuses. C'est pas des excuses. C'est une réalité. C'est ça. Ils sont pas là. C'est ce que tu as prévu.
Ils vont s'attaquer à autre chose. Ils vont dire, c'est parce qu'ils n'ont pas de relève. C'est parce qu'on n'a pas bien repêché. Si jamais il y a des blessures ou des choses, des impondérables qui arrivent et qu'on ne calcule pas, les gens vont aller, même si on dit que le Canadien ne peut pas mieux performer, ils ont des blessures, les gens vont aller dire, c'est parce qu'on n'a pas de relève, on n'a pas de profondeur, on n'a pas... Tu sais, les gens vont trouver d'autres choses à critiquer.
Oui, oui, regarde, des équipes comme Tampa, qui sont comme... Tu sais, c'est la seule équipe, je dirais, depuis les années 90, là, les Red Wings de Détroit, tu sais, qui avait à peu près 11 gars qui allaient être dans le temple de la renommée probablement là-dedans. Tempo, c'est ce qui s'approche le plus. À part eux autres, là, il n'y a personne qui s'en tire avec des blessures clés à long terme. Je m'excuse, tu vas t'en tirer à court terme, gagner certains matchs, puis si tes joueurs reviennent à temps, bon, oui, c'est correct, si tu as de la profondeur, tu vas durer plus longtemps. Mais une saison complète, des mois complets en série, tout ça, tu vas survivre, tu vas subsister pendant un certain temps. Mais tu peux pas, tu sais, c'est comme dire, regarde, t'es dans une famille, puis il y a un des deux parents qui décède. Et je m'excuse, t'es pas la même famille, là. C'est correct pour un bout. Tout le monde, voyez, mon père est décédé quand j'avais 17 ans, là. Moi, comme le seul homme dans la maison, j'essayais bien, là. C'était bien correct pendant 2-3 mois, mais à un moment donné, le garde, c'était trop, là. J'étais pas capable d'être le père de mes sœurs, puis le mari de ma mère, puis tout le reste qui vient avec, là. Tu sais, c'est normal. Fait que c'est pour ça que moi, c'est pas une question de chialer, c'est une question de voir clair, puis c'est une question de gérer les attentes. Moi, le Canadien recommence à zéro avec ce qu'ils ont. Alors, avec ce qu'ils ont, on ne pourra pas savoir qu'est-ce que ça vaut tant qu'on n'a pas une longue période de temps à voir est-ce qu'il y en a qui sont capables de prendre la relève, est-ce qu'il y en a qui sont capables d'afficher un certain leadership. Pas juste l'afficher, c'est l'impact du leadership. Un nouveau leader va arriver ou un leader qui est en essor. Pas le même impact que le gars qui se fait 12 ans. Tu sais, je m'excuse, là, un gars comme Weber, là, les gens qui ne peuvent pas comprendre ça, mais quand tu es autour d'un individu comme ça, là, regarde, il n'y a même pas besoin de parler. Il te regarde, là, puis un gars comme Steve Eiserman, c'est la même chose. Ils sont là, ils ne parlent même pas, juste un regard, là, puis tu te tiens fait serré, puis tu comprends.
Tu comprends, aussi, ouais, c'est ouais, ça.
Tu comprends, mais ça, c'est de la prestance. Puis ça, là, ça se dessine pas. Là. Tu décides pas, hey, là, j'ai de la prestance. Là, hein, Cole Caulfield, il décide tout d'un coup que là, il va être un leader du Canadien. Il va peut-être scorer des buts, il va emmener de l'enthousiasme, mais son leadership ne passera jamais proche de ce qu'un Weber pourra emmener dans son rôle. Fait que, c'est pour
non,
ça que
faut
là,
juste qu'il se comporte bien et qu'il a une bonne éthique comme qu'il a appris des plus vieux.
Ben oui.
Dans 3-4-5 ans.
C'est ça.
Non, là, tout de suite. Bien se comporter, c'est tout de suite. Puis après bien ça, les influences,
oui,
non, les autres, ça va venir plus tard.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Être un bon élément pour être un leader, c'est pas m'en faire pantoute, là. Je regarde, tu pars, tu es un athlète, après ça, tu es un bon membre, puis après ça, tu vas être un expert dans ce que tu fais, puis après ça, tu aspires à du leadership. Hey, il y a des méchants paquets d'étapes là-dedans, là. Fait que, tu sais, pour moi, il faut respecter ça, il faut respecter qu'il y a un processus là-dedans. Alors, c'est pour ça que, est-ce que le Canadien est dans le trouble? Je ne sais pas. Ça se peut que ça soit une super saison, mais ça ne sera pas une super saison pour les mêmes raisons que l'année passée. C'est ça que je dis. C'est que c'est à refaire.
Guy?
Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais il faut laisser la place à ça, et surtout pour l'avoir vécu deux fois avec deux équipes différentes, il faut arrêter de dire, L'année passée, comment ça se fait qu'il y avait ça? Comment ça se fait qu'on s'est rendu là? Comment ça se fait que ce joueur-là était bon? Comment ça se fait que cette ligne-là était bon? On n'est plus l'année passée. Le premier exercice que tu dois faire, c'est on recommence à zéro, puis tout le monde recommence avec la possibilité d'être quelque chose de nouveau et d'avancer, mais avec un repart à zéro. Alors, tout est ouvert. C'est positif, ça. C'est pas négatif.
Exactement. Puis Guy, on va retrouver les gens à la télé dans quelques minutes, mais juste avant, je veux saluer rapidement sur le rds.ca de nombreux commentaires. Félix Michon, Marilyn Arsenault, Robert Brière, Jean-Luc Pigeon, il y a des habitués, là, Charles Bélanger également, Olivier Lamoureux, plein de gens qui sont contents de notre retour. Il y a même Léona qui dit, attendez, je vais le retrouver, je l'ai lu tantôt. Guy n'a rien perdu cet été, Léona Boudreau. Guy n'a rien perdu cet été, toujours aussi intéressant. On accueille les gens de la télé et on poursuit ensemble. Des salutations également via Facebook qui, même si c'est en panne mondiale, on a réussi à aller chercher quelques commentaires et je vais me permettre de saluer Marc-André Martin-Masque, André Lalonde également, pseudonyme Jimi Hendrix, il y a Gabriel Archibald aussi. Et il y a une question ici qui nous vient de Patrick qui demande à Guy, et avant d'accueillir Denis, je vais te la poser, Guy, je vais te laisser répondre. Il veut savoir, est-ce que Chris Weidman a réellement des chances de faire l'alignement comme défenseur régulier chez le Canadien? Il te pose la question, Guy.
La vérité, c'est qu'à l'âge où il est rendu, Chris, il est ce qu'il est. Il y avait une raison pourquoi il est en Russie. Il a essayé de faire sa place dans la Ligue nationale. Moi, je l'ai eu. C'est clair que ce qu'il a prouvé, c'est à 5 contre 5. Écoute, c'est un gars qui est capable de jouer sur un deuxième avantage numérique puis de t'amener des choses positives sur un deuxième avantage numérique. Par contre, à 5 contre 5, il n'a pas encore prouvé qu'il était un joueur de Ligue nationale capable d'une constance sur laquelle on peut se fier. Alors, on ne prend pas mon mot à moi. Moi, je l'ai eu il y a un certain temps. Il a progressé depuis. Mais il a quand même... Le résultat est qu'il n'était plus dans la Ligue nationale. Alors, il a fait des belles choses en Russie, mais la Russie, c'est pas la Ligue nationale, c'est sur une grande patinoire. Alors, lui, c'est un petit gabarit. Et c'est là qu'il a approuvé sur une petite patinoire, donc les patinoires de la Ligue nationale, avec des gabarits de la Ligue nationale, qu'il est capable d'évoluer. Est-ce qu'il est capable d'embarquer sur la glace? 100%. Mais est-ce qu'il est capable d'être un joueur de Ligue nationale? Ça dépend de un, lui, mais ça dépend aussi des autres joueurs du Canadien. Quel type de profondeur que le Canadien a? Quel type de rôle ils ont pour certains individus? Alors, est-ce que si le Canadien jouait à 7 défenseurs, comme par exemple, moi, à Tampa, je jouais beaucoup à 7, je jouais même dans le junior, j'adorais ça, mais j'adorais ça quand j'avais des experts, si tu veux, soit des avantages numériques, soit des gars plus tard, soit des gars spécialiste d'avantage numérique, ça, ça laisse plus de liberté. Alors, Weidman, dans un contexte comme ça, absolument, tu peux le mettre comme, par exemple, avec Marc-André Bergeron, moi, c'était super pour ça, tu sais, Marc-André, il avait des atouts, puis c'était beaucoup amélioré défensivement avec les années, mais c'était quand même un expert d'avantage numérique et de zone offensive. Mais tu sais, pour moi, Marc-André Bergeron, il était bien en avant de Weidman, là, dans le temps, là, à 5 contre 5, il était meilleur défensivement, il était meilleur pour la transition, il était meilleur en sortie de zone, il était meilleur en zone offensive, tout ça. Alors, est-ce que Weidman peut atteindre ça? Peut-être, mais il ne l'a pas prouvé encore. Alors, c'est pour ça que, puis il faut faire attention, là, on est dans le camp d'entraînement, là. Ça n'a rien à voir avec le calibre national. Même le dernier match, quand on avait quelques vétérans de plus, là, écoute, je le sais, je l'ai vécu, là, on est loin du calibre national. Alors, que ce soit pour un nouveau, pour un jeune, pour un gars comme ça, tu ne peux pas voir qu'est-ce que ces gens-là vont être capables de faire tant que tu ne seras pas dans un contexte où il n'y a plus d'espace, où il y en a plus que plus tard dans l'année. C'est le début de l'année. Et c'est pour ça que souvent, il y en a qui partent en faux, pour ça, ils ne sont plus capables parce qu'il y a plus d'espace. Les équipes ne sont pas bonnes défensivement. Les désavantages numériques sont pourris au début. Les avantages numériques sont incroyables. Et c'est toujours la même affaire à chaque année. On s'emballe, puis à un moment donné, whoops! Là, les vétérans commencent à jouer à peu près le premier mois, je te dirais, mois et demi, là. Mi-novembre, là, on commence à voir la vraie Ligue nationale qui commence, les systèmes qui commencent à être bien aguerris, tout ça. Les joueurs qui évidemment, habituellement, prennent le dessus avec le temps, commencent à prendre le dessus. Puis là, tout d'un coup, oups, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Alors, les gars qui manquent d'hockey sense, qui manquent de vitesse d'exécution, parce que c'est ça, la Ligue nationale. Pas une question de vitesse. T'as plein de gars dans les marquants, tu vas bien assez vite. C'est vitesse d'exécution. Alors, il a prouvé ça.
Guy, laisse-moi rentrer Denis, puis après ça, tu sortiras ta phrase assassine des débuts de saison. Je vais te la mettre sur la palette, tu vas voir. Denis Gauthier, salut.
Salut, Denis. Messieurs, comment allez-vous? Vous allez bien?
Bonjour, Denis! On est content de te voir.
Hey, c'est un peu sur le décalage ça, j'ai passé la fin de semaine en Abitibi voir mon kid commencer junior. Là, j'ai l'impression que c'est allé au bout du monde, qu'il y a 3 heures de décalage. J'ai trouvé ça là, la route.
Moi, j'ai la face rouge parce que j'ai... Moi, j'ai la face rouge parce que j'ai mal à la tête. Toi, t'as la face rouge à cause du froid de l'hiver là-bas, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Non, c'était pas cité,
Moi, j'ai caché aussi en Rouen. C'est pas ça, les gars.
Ben, non, mais je me rappelle qu'avant d'aller coacher à Rouen, junior majeur, les gens me disaient, tu vas voir, quand tu vas être rendu à l'autre bout du monde, là, ben, il te reste encore une heure à faire.
Continue, c'est ça.
Fait qu'on salue tous les gens qui nous écoutent à RDS ou sur le podcast On Jase, qui sont en Abitibi, que ce soit à Val-d'Or, Rouen, peu importe, la Belle-Sucévion. On vous salue. Denis, t'arrives. Et Guy, il parlait que la saison, où ce qu'on est présentement, ça n'a rien à voir avec la saison régulière, que les désavantages numériques sont pas bons. Guy m'a toujours dit la même phrase. Il n'y a pas un joueur de hockey au monde qui, l'été, pratique son désavantage numérique. C'est ça, Guy? Il pratique quoi, l'été?
L'été, je veux dire, même si c'est un contre un, même défensivement, je veux dire, tu vas pratiquer peut-être ton patin latéral, tout ça, mais je veux dire, il n'y a personne qui pratique ça. Alors, puis la vérité, c'est
pas le coup. Tu te vois-tu à l'aréna, je fais ton désavantage numérique, Denis, avec tes chums? Ah ouais, on fait une boîte, let's go!
Pogner mon timing, frapper les gars, bloquer des shots. Oh ouais, c'est vraiment le fun.
Ah ouais, shot-moi dessus.
Ouais, c'est ça. Hey, Guy, on va te laisser en te disant un gros, gros merci. Et on va te retrouver plus tard cette semaine. Je pense que c'est avec nous vendredi. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont rebaptisé Crocodile Guy. Alors voilà, on te laisse retourner. C'est le temps de la chasse, là. Tu vas-tu à la chasse, c'est ça? Oui? Ah, excellent.
Salut.
Excellent.
Salut.
Hey, j'ai mon bac au chevreuil, mais il n'a pas mangé mes carottes. J'ai acheté ça pour rien.
Au lieu de Crocodile Dundee, ça va être Crocodile Dungy.
Don Guy,
ouais, c'est bon. Salut Guy.
Salut Guy.
Salut Guy.
Bonne journée.
Bye bye. Avant de poursuivre avec Denis, dans un de tes sujets, Denis, tu voulais nous parler de Jake Evans et on me dit que Jake Evans vient de s'adresser aux médias il y a quelques instants. Donc, je vous propose, les gars, d'écouter ce que Jake Evans avait à dire à propos de son nouveau contrat, puis on en discute dans quelques secondes.
Last week, I mean, I was going into the season planning on betting on myself again, and I just think when that offer comes up, I think, you know what, no matter what, it's a lot of money, and I wouldn't have expected this a few years ago even, so, and you know what, I just love this city, I love playing here, I've had so much fun these past few years, and the teammates have been, you know, I've been growing so close to them, they're like brothers now.
Ça, j'aime ça entendre ça. C'est rare qu'on entende ça. Ah oui, ben oui, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Je pensais me battre, puis là, je vais rester. Denis, on veut savoir ce que tu en penses, parce que ce matin, on s'est parlé, puis tu me disais que tu voulais parler du nouveau contrat d'Evans. Et là, du rôle aussi là-dedans, là, tu sais, il faut parler de Paquette un peu, Peeling et tout ça. Donc, je te laisse aller là-dessus.
Ben, écoute, moi, je suis content pour lui. Je sais très bien, là, écouter ses mots, j'avais pas entendu ça. Sa conférence de presse encore, mais je comprends très, très bien comment il se sent. J'ai vécu la même chose, moi, que les Flyers de Philadelphie lorsque j'ai été... J'étais un petit peu plus vieux, mais tu sais, je suis arrivé à Philadelphie lors d'une transaction à date limite des transactions des Coyotes de Phoenix, puis je pensais tomber agent libre sans restriction durant l'été, puis tester le marché, puis écoute, on m'a offert un contrat qui pour moi était trop d'argent, puis pour refuser était trop. Puis c'était pas une question d'être gourmand au niveau de l'argent, c'était plus une question de sécuriser ma famille. T'sais, à ce moment-là, c'était vraiment une occasion en or pour moi. Je pensais que le fit était bon, mais en tout cas, peu importe. C'est une question de te sécuriser, de t'implanter. Puis c'est ça que Jake Evans, présentement, a l'opportunité de faire. C'est un gars qui, peut-être aux yeux de certains, a percé l'alignement du Canadien l'année passée, puis s'est solidifié une place, mais il y a encore... Les joueurs du bottom six, les joueurs là, du troisième, quatrième trio, ce que tu recherches, c'est de la sécurité, de la longévité. Puis un peu là, c'est la situation qui se retrouve présentement parce qu'il l'a mérité, il a fait bien son travail. Maintenant, c'est quoi le rôle qu'on va lui offrir? T'sais, c'est quoi les. On connaît les capacités qu'il a. C'est un gars qui, pour moi, amène beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse, un talent plutôt limité au niveau offensif. Donc, pour moi, la chaise idéale pour lui, surtout dans la composition. Comment Dominic Ducharme semble vouloir faire ses trios cette année, c'est dans le top 9. Un peu plus de talent offensif, le répartir comme il faut, puis avoir un quatrième trio qui est peut-être un peu plus d'énergie avec des missions spéciales, un peu comme on l'a vu l'année passée quand Dano était blessé. On a vu Evans avoir la charge de contrer, si je ne me trompe pas, c'était avec Byron et Lekkonen, avoir la responsabilité de contrer les trios adverses. Connor McDavid à Edmonton a très bien fait son boulot. Fait que, tu sais, je pense pour moi, ça, c'est le travail idéal pour lui. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il va avoir? Est-ce que maintenant, parce que personne fait le travail qu'on espère jusqu'à présent, c'est-à-dire, moi, je pense que Poehling avait un poste sur le troisième trio offert sur un plateau d'argent pour moi cette année, puis il n'a pas pris encore l'opportunité. Il a déçu un peu au début du camp, un bon dernier match là, qu'on a vu dans le dernier match contre les Sénateurs, mais tu dis, est-ce que je suis confiant que lui, si je veux un peu plus d'offensive sur mon trio, mon troisième trio, va être le troisième centre qui va faire un peu l'ouvrage? Parce qu'il y en a un peu plus d'offensive. Pour moi, il y a un peu plus de potentiel offensif qu'Evans. Tu marques pas. Il a marqué quoi? Une vingtaine de points dans les 18 derniers matchs avec le Rocket l'année passée. Tu dis, ce gars-là, il a un talent offensif qui peut-être aider, contribuer. Je m'attends pas à ce qu'il soit top 6, mais. C'est lui qui devrait, qui pourrait, qui j'aurais aimé qu'il prenne la pole et qu'il connaisse la situation dans laquelle il est cette année. Il l'a pas pris jusqu'à présent, ça veut pas dire que c'est pas fini. Fait que, tu sais, là, je regarde la composition des trios ce matin. Il y a Cédric Paquette, là, bon, qui était blessé depuis le début de camp, mais là, on voit Mathieu Perrault au centre, tu sais, sur le quatrième, ligne avec
les Laisse-moi donner les trios aux gens, là, ceux qui viennent de se joindre à nous là, à l'entraînement ce matin. Toffoli, Suzuki, Caulfield qui était de retour, Drouin, Dvorak, Anderson, Armia, Evans et Gallagher comme sur une troisième ligne. Et là, Arturi Lekkonen avec Mathieu Perrault pour une première fois au centre. Donc, on a passé les quatre premiers matchs en concours sans jamais voir Perrault au centre. Là, il est au centre avec Lekkonen et Belzile. On sait qu'on a beaucoup de blessés. Cinquième trio, Raphaël Harvey-Pinard avec Ryan Poehling et Jesse Ilonen. Et on a toujours Pezzetta qui mérite de rester dans l'entourage, même si on sait qu'il va se retrouver dans la ligne. Et Gabriel Bourque également qui a bien fait. Des duos défenseurs, Romanov avec Petrie, Goulet avec Savard, Chiarot avec Weidman et Kulak avec Fairbrother. Montembeault était là ce matin. Je veux même vous donner les avantages numériques. Je n'avais parlé déjà, là, il va y avoir un avantage numérique droitier et un gaucher. Le droitier, c'est Gallagher, Caulfield, Toffoli, Suzuki, Petrie. Et le gaucher, c'est Dvorak, Perrault, Anderson, Drouin, Weidman, Romanov. Donc, on jouerait avec... deux défenseurs sur cette deuxième unité. Là, Dominique Ducharme parle aux médias présentement. Dominique Ducharme a dit que Carey Price était malade. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la patinoire, mais en raison de... Puis ça n'a rien à voir avec la COVID qu'on dit. Mais en raison de sa maladie, pourrait manquer maintenant. On pense encore qu'il peut jouer au début de la saison, mais les chances sont de plus en plus minces. Et dans le cas d'Edmundson, ça ne s'améliore pas, mais ça n'empire pas. Et Hoffman devrait recommencer à patiner cette semaine. Fait que je pense que j'ai fait le tour des nouvelles. Tu parlais, Denis, des trios, tu viens d'en parler. Mm-hmm. Vas-y, je rajouterai un commentaire sur Evans après. Tu parlais de Perrault sur une 4.
Bien, de mettre Perrault, parce que là, je pense qu'avec le fait que, pour moi, Poehling n'a pas solidifié sa place au camp qui lui était offert. Puis c'était probablement le souhait du Canadien, ça, j'ai aucun doute là-dessus, que lui prenne la pole avec la fin de saison qu'il a connue, de prendre confiance, d'arriver, puis de forcer la main, de dire, regarde, c'est mon poste, je l'ai. Mais là, on est forcé à faire des tests, à faire des essais. On amène Mathieu Perrault, qui a déjà joué au centre de la Ligue nationale, a de l'expérience, de maturité, et a aussi de l'offensive. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, comment ça va se jouer. Il reste une semaine avant le début début de la saison. Donc, on va voir ce que les joueurs sont capables de faire en une courte période de temps, mais l'heure va être aux décisions. Puis, tu sais, ce qui ne vient pas nécessairement aider la chose, c'est la quantité de blessés. Puis là, c'est autant l'attaque qu'à la défense, quantité de blessés qu'on a au début, depuis le début du camp d'entraînement, qui permettent qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui ne seront pas nécessairement éclaircis. Puis, il n'y a pas de questions qui vont être répondues à temps pour le début de la saison. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, mais c'est encore un casse-tête pour moi. Je suis convaincu au niveau de la position de centre chez le Canadien.
C'est clair. Moi, je pense que si le Canadien va avoir une bonne équipe, Denis, Evans, il faut qu'il soit sur une 4. Avec Lekkonen pour jouer contre les meilleurs. Là, c'est là, que tu sais, vient le problème. Moi, j'ai parlé souvent que je souhaitais voir Drouin sur une ligne au centre. Fait que ça donne Suzuki, Dvorak et Evans qui peuvent prendre des mises en jeu en territoire défensif. Puis tu as juste le trio à Drouin que tu mets en zone offensive ou zone neutre. Mais ça, regarde, c'est le coach qui décide, c'est pas nous autres. Là. Fait qu'on va lui faire confiance, peut-être qu'ils ont des plans autres. Dans le cas d'Evans, là, ce contrat-là, dans un an, pourrait être un méchant deal à 1,7. Et je comprends Evans de le prendre parce qu'il est peut-être à un coup à la tête de plus pouvoir jouer au hockey. Fait que lui, il s'assure une petite garantie personnelle de faire 1,7. Il va être millionnaire le restant de ses jours. Puis si jamais il mangeait un coup fatal qu'il ne pouvait plus jouer au hockey, ses vieux joueurs sont assurés. Puis du côté du Canadien, eux, ils prennent la chance en disant « Oui, Jake Evans est bon contre les équipes adverses, les joueurs adverses, mais c'est un gars qui a déjà connu des moments offensifs. Puis peut-être qu'en l'essayant avec Armia, qui récupère des rondelles, Gallagher, du monde qui travaille d'arrache-pied, peut-être qu'on espère que voir un petit côté offensif que des fois, on disait que Dano avait pas. Fait que peut-être que c'est ça qu'on se dit de ce côté-là. Moi, je demeure sur mon point qu'il doit jouer sur une 4, mais peut-être que les Canadiens voient plus d'offensives que nous autres dans Evans.
C'est certain que si Evans finit sur un quatrième trio, le Canadien a une bonne ligne de centre. Quand même intéressante. Puis à 1,7, avec les outils qu'il a en place, il ne te fera jamais mal. Et même s'il ne fait pas de points, il y a assez d'autres outils, assez d'autres dominants au niveau de l'énergie, au niveau de la vitesse, au niveau du hockey sense, au niveau de la responsabilité, de l'acharnement défensif. Il va bloquer des tirs. Il va t'amener quelque chose puis il va t'en donner en masse pour ton argent aussi. Fait que je suis d'accord avec toi si tu dis à ce prix-là, dans deux ans ou dans un an, peut-être qu'on va se dire que c'est un auberne. Si jamais cette touche offensive-là se présente puis qu'il marque une trentaine de points dans son année, écoute, c'est du bonus pour moi puis ça va valoir chaque sou.
En fin de semaine, messieurs, le Canadien a réclamé au balotage Samuel Montembeau. On en a parlé un petit peu avec Guy tantôt, puis Denis, tu voulais nous en parler aussi. Et moi, j'avais hâte d'entendre ses commentaires. Puis là, ben, il s'est adressé aux médias. On va vous faire entendre qu'il parle là, de son arrivée avec le Canadien. Puis moi, je trouve ça le fun. C'est un jeune Québécois, jeune gardien de but, un petit peu d'expérience dans la Ligue nationale. On écoute ses commentaires, puis on en jase par la suite.
Faire une bonne première impression. Ils m'ont dit que j'allais jouer des matchs en concours avant que la saison commence. Puis évidemment, l'objectif là, avec Carey Price, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. On ne m'a pas dit rien à son sujet. Mais évidemment, moi, c'est juste de donner le meilleur moyen, me donner une chance. Puis que si j'ai la chance d'être backup au début de la saison, là, de prouver que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. T'sais, comme c'est près de la maison, c'est sûr que je me sens à l'aise ici. Puis aussi, si jamais je m'en vais à Laval, il y a déjà les coachs là-bas avec qui j'ai fait affaire depuis longtemps. Jean-François Hull était mon coach ma première année junior, puis Marco Marciano, c'est mon coach de gardien à chaque été depuis que j'ai 17 ans.
OK. Non seulement il va jouer des matchs, il va jouer le prochain match. Dominique Ducharme a confirmé que Samuel Montembeau sera devant le filet du Canadien demain mardi à Toronto. Et Jake Allen aura le dernier départ jeudi contre Ottawa. Donc, quand Dominique Ducharme dit que les chances de voir Carey au début de la saison sont plus minces, on comprend, sont minces comme dans « il n'y aura même pas un match préparatoire ». Donc, Montembeau, on veut le voir déjà. On veut le voir tout de suite là, demain contre Toronto. Puis Toronto aussi ont coupé leurs joueurs. Là, eux autres aussi devraient avoir une équipe pas pire pour le match à Toronto.
Oui, c'est important pour moi de rentrer Samuel le plus rapidement possible dans l'alignement pour avoir un feeling de jouer derrière cette équipe-là, cette défensive-là, de voir les ajustements qu'il doit apporter. Parce que, tu sais, souvent, le gardien de but, on a souvent tendance à dire que c'est une position qui est simple dans son intention ou dans sa tâche, c'est juste d'arrêter des rondelles. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les lectures, quel genre de tir qu'on donne, quel genre de défensif qui joue devant nous, quel genre de communication qu'on a avec les défenseurs pour bouger les rondelles, les tirs proviennent de où majoritairement? Si les Canadiens sont gros, grands, forts, devant du filet, les tirs viennent plus de l'extérieur. Si on a une défensive qui est plus petite et plus mobile, souvent on va se faire défier plus à l'intérieur. Donc, il y a des ajustements à faire pour le gardien de but aussi dans ses lectures. Mais ça, pour moi, ça, dès qu'on l'a pas signé, mais quand on est allé chercher au balotage, on l'a réclamé, pour moi, c'est un message qui semblait assez évident pour dire que Carey n'est pas prêt pour le début de saison. Okay, je comprends qu'il reste une semaine et qu'il ne sera pas prêt pour les matchs pré-saison, mais fort probablement aussi qu'il va manquer un début de saison s'il n'a pas encore patiné là. Il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent avec l'enflure dans son genou, tout ça. On ne veut pas le brusquer, on ne veut pas trop aller rapidement puis le retarder à long terme, ce qui est la bonne chose à faire. Ouais, là, il est malade. OK, bien, quelle coïncidence. Ça se peut. Ça se peut, mais il n'est pas
malade. C'est large, par exemple, hein?
Ouais, c'est ça. Il est malade du genou. Est-ce qu'il est malade du genou c'est ça. Mais il reste que c'est une police d'assurance qui a de l'expérience dans la Ligue nationale chez les rangs professionnels. Puis je pense que c'est important de garder l'optique qu'on ne veut pas encore mettre primo dans la situation où doit seconder Jake Allen en début de saison si Carey n'est pas là, ou même plus tard dans la saison. Il faut que primo garde les filets beaucoup dans la Ligue américaine cette année. C'est pas sûr qu'il y a eu un camp d'entraînement exceptionnel à part sa dernière performance. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Puis ça, je suis convaincu qu'on en est conscient. Donc, c'est important qu'il ait joué plus de je dirais, 60-65% des matchs dans la Ligue américaine, puis gagner en expérience pour éventuellement devenir un joueur gardien de but de la Ligue nationale. Mais c'est pour moi ça. Je suis content de voir le Québécois arriver à Montréal dans une position où il peut le prêter main forte.
Denis, tu sais que les gens n'en manquent pas une?
Excuse-moi, je t'apprête à t'écrire pour pas qu'on se pile dessus. Je m'excuse. Je veux juste lire quelques messages parce qu'on est privé de Facebook. D'ailleurs, les gens sur Twitter s'amusent beaucoup. Facebook, Instagram et WhatsApp sont down. Ça ne fonctionne pas. Donc, les gens de Twitter s'amusent aux dépens des fans de Facebook présentement sur les médias sociaux. Pascal dit que c'est une belle acquisition. Montembeau, Pascal Blais. Agence d'artiste, tout à l'heure, il a fait des bonnes blagues sur Guy. Puis là, il dit peut-être que c'est le genou de Carey qui est malade, qui en rajoute. Hugo Leblanc, il dit « McNevin, c'est déjà terminé. » Oui, il a été retourné à Laval et je ne serais pas surpris qu'il soit le partant à Trois-Rivières. Puis, voyez pas ça comme une émotion. Là. Tu veux que tes deux meilleurs jeunes gardiens de but soient numéro un dans leur équipe, que tu reçoives des lancers de la Ligue américaine ou de la ECHL. C'est un peu pour ça également que les Canadiens, là, c'est leur joueur qui... Tu sais, normalement, les Canadiens plaçaient McNevin ailleurs pour qu'il y ait des matchs. Puis là, il s'est promené comme pas possible. On veut qu'il reste dans l'organisation. Salutations à Félix Michon également, Steven Boucher, Philippe Pétégros. C'est drôle, hein? On revoit les noms. Ça fait depuis cet été qu'on ne s'est pas vu, puis on relit vos noms, Yannick, hein? Puis on fait ah oui, je me souviens de Claude, je me souviens de Léona, je me souviens de Philippe Pétégros. Bref, c'est le fun de vous lire. Merci beaucoup d'être là. Yannick, je te laisse la question à Denis.
Bien, en fait, j'allais juste faire un petit clin d'œil parce que tu parles des gens, puis tu sais, on retrouve les gens, puis les gens en manquent pas une. Hein? Léona qui nous écrit, en fait, Denis, qui te souhaite bonne fête en retard. C'était vendredi ton anniversaire. Oh. Et elle dit, son fils lui a fait un beau cadeau avec son premier but dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Fiston a fait ça en mode en fin de semaine, mon Denis?
Oui, pas mal, puis il n'a pas tardé, il voulait pas que je m'endorme, fait qu'il a marqué son premier but à 5 minutes du début du match de son premier match, il voulait être sûr que je m'endorme pas ou que je sois pas parti aux toilettes, fait que il l'a sorti, j'étais bien fier, c'était un beau moment pour moi et ma femme, puis ma fille Kellyanne, on est toutes montées là-bas pour voir ça, puis il y a juste un premier match, on a profité pour y aller, puis je salue les gens d'Abitibi qui ont été fort sympathiques aussi. J'ai rencontré plein de bons monde, j'ai eu plein de belles discussions aussi, qui étaient intéressés de parler de hockey, du Canadien, de toutes sortes de choses. Donc, beaucoup de plaisir en fin de semaine avec les gens de l'Abitibi également.
Ouais, T'avais-tu fait un deal? Ben oui, c'est une région de hockey. T'avais-tu fait un deal avec le gars qui fait les calendriers dans la Ligue de hockey junior major du Québec, là, Drummond et Sherbrooke, t'en Abitibi le même week-end? D'après moi, c'était arrangé avec le gars des vues, ça.
Ils ont certainement considéré le papa de celui qui était là, mon fils, Jacques Lévotcheur, jouait Val-d'Or vendredi, Rouen samedi, et l'inverse avec Sherbrooke. Donc, pour moi, une pierre deux coups. Malheureusement, mon gars, il n'était pas si intéressé de... que je sois mon plus vieux, que j'aille voir son match. Je l'ai vu assez souvent. Il a dit, allez voir. Profite-en, va voir le jeune. C'est ce qu'on a fait parce que les matchs étaient en même temps. C'était bien correct. C'était bien content. Ouais.
Hey Martin, on va dire un beau bonjour aux gens de la télé. Puis ça va se poursuivre sur le web, Martin?
Oui, absolument. Encore une fois, cette année, la télé, c'est fini, mais on continue sur le web, tout le monde. Salut, Matt. Dites bonjour à vos mères. Enfin, il y a une belle pause.
Je rappelle que je
suis content.
Hein? Je vais bien organiser ça. Hein? Je pense à toi. Un gars d'équipe. Hey, Denis, tu l'as effleuré rapidement au début, puis je pense une belle façon de finir l'émission. Les gens aiment ça un peu d'entendre les commentaires. Ah ben juste avant, je veux pas l'oublier parce que ils l'ont préparé. On a Cole Caulfield également qui s'est adressé aux médias à quelques instants, donc qui a parlé de sa blessure, je pense. Donc on va écouter Cole Caulfield, puis par la suite je vais revenir sur ton expérience à toi dans des camps d'entraînement. Tu l'as effleuré au début rapidement, mais je veux qu'on en reparle. Mais là on va écouter Caulfield pour tout de suite.
I feel back to normal now. It was good to get back out there with the guys. I feel like I've been good for a while. Just got made sure of that last week, so I'm 100% now. I'm just being able to play, consistently game in, game out. Obviously, it's not going to come easy at all, but you just got to stick with it and, kind of stay level-headed, and that's kind of the challenge that I'm looking forward to the most.
T'sais, là, on parle de Caulfield qui, lui, est assuré. On parle de Evans maintenant qui est assuré, mais il y en a qui doivent se battre pour un poste. Puis toi, tu as vécu ces deux situations-là. Tu parlais de Philadelphie tantôt, mais tu as vécu des camps aussi où tu es assuré. Puis c'est deux mondes totalement différents quand tu as à vivre ça.
Oui, ouais, absolument. J'ai vécu la majorité de mes camps d'entraînement, je te dirais, après ma deuxième année de la Ligue nationale. C'était des camps où j'étais un peu plus relax, qui pour moi, j'avais vraiment une mentalité de me préparer, de me mettre en forme pour le jour 1 de la saison régulière. Et non dire qu'il faut que j'impressionne tout le monde puis que le risque de blessure augmente, ce genre de choses, parce que je dois nécessairement être plus physique, je dois nécessairement être plus tough que toutes les autres, puis tout ça pour pouvoir gagner ma place. Fait que quand tu es vétéran, la longueur des camps, puis là, il faut se rappeler qu'avant, les camps d'entraînement duraient 28, 30, 31 jours. C'est limité à 21 jours depuis les nouvelles règles de la convention collective qui ont été négociées entre les joueurs et les propriétaires. Mais c'est très difficile de se garder motivé pendant la période de camp. Un vétéran veut jouer 2, 3, 4 matchs maximum, puis tu ne veux pas voyager la journée. T'as mieux jouer les matchs à domicile, éviter le voyage, mais des choses de même. À l'inverse aussi, tu as des vétérans des fois qui sont en fin de carrière, qui ont des positions plus précaires, qui deviennent dans des positions où, je vais le nommer l'exemple d'un gars comme Cédric Paquette, puis là, il est 12e, 13e attaquant, tu dois t'accrocher, des fois tu as un contre un volet, des fois tu es agent libre, puis tu veux gagner ta place. Tu sais, moi, avec les Flyers de Philadelphie, je venais de signer un contrat pour 3 ans. L'année 1 de mon contrat, on finit dernier dans la Ligue nationale, donc beaucoup de changements la saison suivante pour l'année 2. L'histoire a été contée souvent, mais avec l'arrivée de Daniel Brière, Kimo Timonen, Jason Smith, en tout cas plein d'agents libres, au-dessus de la masse salariale. Puis, je devenais un candidat, moi, qui était on the bubble, comme on dit, sur la bulle, peut-être potentiellement échangé, tout ça. Mais jamais pour moi, après 10 ans, c'était une situation où je pensais me faire rétrograder dans l'Américaine. Je m'étais établi, puis si je n'étais plus en danger parce que je n'étais plus capable de jouer dans la Ligue nationale là-dessus, j'étais en danger parce que les Flyers avaient avaient dépassé la limite du plafond salarial. Donc, pour moi, on avait 9 matchs de cédulé, je me rappelle très bien, c'était 9 matchs pré-saison de cédulé. Puis là, je voyais les joueurs qui étaient là. Puis je pensais pas au début de l'année que j'étais en danger. Je pensais au pire, je vais me trouver sur ma troisième paire de défense. Puis c'était bien correct. Mais là, je joue pas le premier match, c'est pas grave. Là, je joue le deuxième match, mais on s'en va avec l'équipe C. On était à London, en Ontario, contre les Penguins de Pittsburgh qui amenaient Sidney Crosby. Je pense que c'est sa première ou sa deuxième année. Deuxième année, peut-être, à cette époque-là. Puis avec un bon club, fait que je savais que je m'en allais manger une claque, mais j'étais un des vétérans, puis j'étais le plus vieux avec le plus de seniorité. Les autres vétérans, c'est des jeunes vétérans. Fait que j'étais pas très content de voyager le matin, m'en aller là, puis de jouer le match, puis je savais que je mangeais une claque. Mais en tout cas, je le fais en bon vétéran. Je joue, on mange notre claque, on revient à domicile, aller-retour. Match 3, je joue pas. Je refais le même scénario. On s'en va jouer à Ottawa. Contre les Sénateurs. On voyage le matin même. Tu n'as pas la même routine. Je m'en vais avec l'équipe B ou l'équipe C des Flyers encore une fois. On s'en va manger une claque à Ottawa. Je reviens à domicile. Là, je suis comme OK, je suis 2-2 voyager dans la journée. Je suis pas bien. En tout cas, là, je joue pas le match 5, 6, 7, 8. Là, je me pose des questions. Oups. Puis je suis loin.
Tu les as convaincus? Tu t'es dit à partir d'Ottawa. Je les ai convaincus, j'ai ma place.
J'étais pas assez confiant. Là. Après deux claques, je me dis, OK, il y a quelque chose qui marche pas, je me pose des questions. Puis là, je me souviens, j'étais allé voir Paul Holmgren, qui était directeur général. Puis on avait un barbecue d'équipe la veille du match numéro 9. Deux jours avant le match numéro 9, je vais le voir. Il dit, y a-tu quoi qui se passe? Ça va-tu, tu sais, est-ce que moi, je suis en envie de ça? Puis il dit, non. Il dit, j'aime ce que tu fais, tu vas avoir une super belle saison avec les Flyers cette année, on te respecte, on t'aime, tout ça. Bon, ça me sécurise, tout ça. Mais là, je vois l'alignement la veille du match numéro 9, puis je suis pas encore dessus. Puis c'est là que Simon Gagné est venu à ma rescousse parce qu'il m'a vu, là, je bouillais. Là, c'est pas normal. Je joue le deuxième, je joue le match 2 et 4 de 9 avec l'équipe C. On s'en va à l'abattoir, puis je joue pas aucun autre match. Je suis pas nono, ça fait 10 ans que je suis dans la ligue, je comprends très bien ce qui se passe. Fait que là, je bouille. Simon Gagné, il est venu à ma rescousse un peu. Il est allé voir Paul Holmgren. Il dit, regarde, t'es un vétéran. On peut-tu juste au moins lui donner une chance, tout ça? Moi, je suis allé voir John Stevens, qui était le nouvel entraîneur à cette époque-là, qui me dit, ah, Denis, tu sais, t'es un de ceux qui s'adulte. On veut voir nos jeunes aller, puis tu te bats pour un spot. Puis là, j'ai sacré pour la première fois. Ben, non, la troisième fois après un entraîneur dans ma carrière. Tu veux que je me batte pour un sport, mais tu ne me donnes pas l'opportunité de me battre. Je joue pas. Je peux pas me battre dans les pratiques. Faut que je me batte dans les games. Tout ça. Ouais. Fait que là, Simon avait été voir Holmgren. Il a fait changer l'alignement pour que je puisse jouer le match à Washington, le 9e match. Puis, écoute, là, j'étais soulagé. Là, j'ai dit, OK, au moins, j'ai une dernière chance. Je m'en vais à Washington. Vous connaissez la Ligue nationale. J'étais le joueur le plus loin d'être le défenseur offensif. Un but, une passe, ce match-là, gèle tout le monde. Le monde dans 10e rangée, ça revolait partout. Là, je finis ce match-là, je dis, bon, ma job est faite. J'ai eu un des meilleurs matchs de ma carrière. Puis j'ai sécurisé ma place, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Le lendemain, le 1er octobre, c'est ma fête. J'arrive à l'aréna de pratique. Puis là, c'est les dernières coupures, les derniers ajustements. On fait le vidéo post-game pour vous faire une révision du match de la veille pour voir les choses qu'on a améliorées dans notre système, tout ça. Puis là, John Stevens, « Hey, Denis, bonne fête, 30 ans, hey, belle grosse journée, blablabla. » Puis il commence à me jouer le violon. Fait que là, on fait le meeting qui dure 45 minutes. On est tous sur le bord de s'endormir. On a joué la veille, on s'est couché tard. Puis après le meeting, « Ah, Denis, va voir Paul Holmgren, il veut te voir en haut. » Ah ben, sacrifice. Fait que là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je m'en vais en haut, puis c'est là qu'on m'a mis au balotage. Mais là, quand John Stevens m'a souhaité bonne fête, là, il n'y a pas eu un appel pendant le meeting. John Paul Holmgren n'est pas descendu. Non, il s'est vantifié c'était quoi mon sort et qu'est-ce qui s'en venait. Puis là, ça a été la quatrième fois que j'ai sacré après un coach après. Puis je l'ai envoyé promener solide parce que je l'ai traité de menteur puis d'hypocrite puis tout ça à cette époque-là. J'étais vraiment fâché, déçu parce qu'après 10 ans, Ligue nationale me faire mettre au balotage sans raison valable pour moi, autre que la masse salariale. C'est pas mon problème à moi, c'est vous autres qui avez mal fait de votre business. J'étais très déçu et très fâché. Puis là, le fait que j'ai pas été réclamé parce que c'était au camp d'entraînement, pogner un vétéran, c'est toujours un peu plus difficile quand il y a un salaire qui vient attaché à ça. Tout le monde croit en ses jeunes, veut donner l'opportunité à ses jeunes. Fait que tout ça pour dire que de vivre dans l'incertitude pour un vétéran, des fois, c'est pas toujours le fun d'un camp d'entraînement. Tu veux avoir des opportunités, tu veux avoir des occasions, tu veux jouer, tu veux te sentir là, mais. Quand ton gars est à attendre que tu dois performer, que tu dois être bon pour garder, pour avoir la survie dans la Ligue nationale, il n'y a rien de moins rassurant que ça. Heureusement, j'avais un contrat en poche à ce moment-là, c'était le contrat qui me sécurisait. Mais j'ai vécu toute la gamme des émotions dans toutes les sortes, positives et négatives des camps d'entraînement. C'est pas la même chose pour tout le monde. Puis c'est content pour les jeunes aujourd'hui que ben, les joueurs aujourd'hui, qu'à 21 jours, c'est assez. Parce que c'est de la torture d'une façon ou d'une autre pour bien les gars.
Les camps d'entraînement, oui. Puis, ouais, méchante affaire. Toi, par exemple, t'étais, le club école à ce temps-là était à Philadelphie. Fait qu'au moins, tu n'as pas eu de déménager ta famille puis tu as pu rester proche de ta famille, même si tu avais été rétrogradé.
Ça, c'était le bon côté. Le moins bon côté, c'est qu'on a la même aréna de pratique. Fait que, tu sais, on a juste deux plans, j'y vois tous les jours. Là, les gars, ils disaient plus salut parce qu'ils étaient à l'aise. Ils ne disent pas comment ça va, Denis, parce qu'ils savent que ça va mal en Simonac. Fait que, c'était comme, il est rentré à l'aréna, c'était quasiment ça. Puis, tu sais, c'était très malaisant de ce côté-là. Puis, ça me faisait bien plus suer que d'autres choses. Mais, comme tu dis, au moins, une fois que je partais de l'aréna, j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants. Ça me gardait sain, mais ça a été une année très, très difficile. Mais, les camps d'entraînement, tout ça, longue histoire courte, c'est. c'est correct, c'est un passage obligatoire, un mal nécessaire, mais j'aimais mieux au début de ma carrière quand j'étais sécure dans mon poste.
Tu vois, la semaine, moi, je
la semaine
essayer,
prochaine...
Ce que j'allais dire, Yann, c'est tu vois, c'est un méchant moment à poche, puis tu le racontes, t'as vraiment de l'émotion quand tu le racontes.
Ouais.
On va essayer de dire qu'à l'âge que tes kids avaient, au bas âge qu'ils avaient, si tu les avais pas vus pendant un an, peut-être qu'ils seraient pas où ils sont aujourd'hui, puis tu n'aurais peut-être pas la relation que tu as avec eux aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est peut-être un mal, mais pour un, pas un bien, parce que tu serais resté affilé, tu les aurais vus pareil, mais tu sais, si tu avais été chippé ailleurs, ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as pu rester à la maison.
Ouais. C'est ma famille qui m'a sauvé, t'as 100% raison. Cette année-là, c'était tough.
Yes.
Guy, Denis, fin, mon chum, de un gros, gros merci.
Ah, cool, ça fait
ouais,
plaisir.
C'était vraiment intéressant, c'était le fun. Ben oui, c'est des belles histoires, c'est toujours le fun. Un gros merci, mon Denis, puis tu vas revenir la semaine prochaine, puis avec John Stevens, ça va être super.
Ouais, c'est bon. Ben, je suis content de vous retrouver, puis je suis content de retrouver tout le monde à la maison aussi. Ça fait longtemps, je m'étais ennuyé de faire votre show, puis avoir le temps de jaser un peu. Fait que, à bientôt, guys.
Ah, t'es fin, mon chum, t'es fin.
Gros câlin. Yes. Allez, Denis.
Salut.
Ciao, bud.
Hey. Super, c'était vraiment agréable. Hey Martin, un gros merci à Guy, gros merci à Denis également. Valérie à la mise en onde, Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie et les gens qui ont commenté partout sur le rds.ca, sur les différentes plateformes, quoique là, Facebook, c'est difficile un peu aujourd'hui. Ça va sûrement venir demain. Puis demain, ben c'est un nouveau panéliste avec nous, Stéphane White, qui se joint à notre équipe. Demain, ça va être un spécial gardien. Tu vas te sentir à l'aise, mon chum. Marc Denis, Stéphane White, demain.
Yeah!
T'es content.
Les goalers.
Content, là.
Yes, sir. En plus, Stéphane puis moi, on s'entend. Tu sais, mettons, Marc Denis puis moi, on s'entend pas, mettons, sur Markstrom. Mais Stéphane White puis moi, on s'entend. C'est pas mal tous les goalers dans la ligue. On a déjà jasé ensemble. Je l'aime beaucoup, Stéphane White. Fait que j'ai hâte de l'avoir. Puis dans le format d'On jase, je suis pas mal sûr que les gens vont triper. Écoute, remercier tout le monde. Je vais remercier les auditeurs qui étaient là, les auditeurs qui vont être là demain parce qu'ils n'ont pas pensé que ça commençait aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont écrit. Un énorme merci. Je vous le dis, ça n'existe pas en télé et en radio avoir autant d'amour avant de revenir en onde. Fait qu'un énorme merci. Yann, je te laisse le mot de la fin après avoir dit dites bonjour à vos mères. Salut demain.
Ben, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se donne rendez-vous demain midi pour une autre édition de On jase. Bye bye.